registre de Coco. Voilà.
Et en fait, explique qu'est-ce que c'est que le comique, enfin quel est le rapport entre le public et l'acteur.
La réflexion qu'il a à propos de la comédie est un climat, une sorte d'état gazeux où s'échangent et s'interpénètrent pensées, élan, sensations qui vont du public aux acteurs et des acteurs au public. Sur un certain palier de la progression comique, le spectateur voit où on le mène, il comprend qu'il a compris, et celui qui regarde et écoute. Le spectateur suit l'acteur. Il accepte les retards et les fausses chutes, les incidences et les silences. Il épouse les feintes hésitations et les détours calculés. Il lit sur le visage de l'acteur et dans son attitude ce que la parole va trahir l'instant d'après. Tous deux s'avancent à travers les espaces comiques avec une sécurité mutuelle, une reconnaissance réciproque. Ce que le comédien dépense, son partenaire, le spectateur, le lui restitue instantanément.
Voilà, une dépense.
Pourquoi me criez-vous?
J'ai mon corps en effet.
Je n'entends pas de mal dans tout ce que j'ai fait.
Suivre un galant n'est pas une action à la femme.
C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi le leçon. Et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché.
Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et j'ai voulu faire le sang à ses entendre.
Oui, mais ça vous parlez franchement entre nous. Il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible. Et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier. Il donne des désirs.
C'est que vous l'aimez, traîtresse.
Oui, je l'aime.
Et vous avez le front de le dire moi-même.
Mais pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas?
Le deviez-vous aimer, impertinente?
Mais là, c'est ce que j'en puis, mais... Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose.
Mais il fallait chasser cet amoureux désir.
Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir.
Le 13 janvier 1622, la très aimable Madame Auclin naît crêchée d'un premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Je peux dire sans crainte de me tromper que si j'avais pu expliquer à l'honorable sage-femme qui était celui qu'elle mettait au monde, elle eût pu d'émotion causer quelques dommages au nourrisson et du même coup à la France. Madame, dis-je, faites attention au bébé, n'oubliez pas qu'il est né avant terme. La mort de ce bébé serait une très grande perte pour votre pays. Mon Dieu! Madame Pauquelin en fera un autre. Madame Pauquelin n'en fera jamais plus un semblable et aucune dame n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles. Vous m'étonnez, monsieur. Je suis moi-même étonnée. Comprenez bien que dans 3 siècles, dans un pays lointain, je ne me souviendrai de vous que parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de monsieur Pauquelin. J'ai tenu dans mes mains des enfants plus illustres. Qu'entendez-vous par le mot illustre? Ce bébé deviendra plus célèbre que votre roi régnant, Louis XIII, plus renommé que le roi suivant, et ce roi, madame, sera appelé Louis le Grand ou le roi Soleil. Chère madame, il y a un pays lointain, vous ne le connaissez pas, c'est la Moscovie. Il est peuplé de gens qui parlent une langue étrange à votre oreille. Et dans ce pays pénétreront bientôt les mots de celui que vous mettez au monde maintenant. Les mots de l'enfant seront traduits en allemand, seront traduits en anglais, en italien, en espagnol, en hollandais, en danois, portugais, polonais, turc, russe. Est-ce possible, monsieur? Ne m'interrompez pas, madame. En grec moderne, je veux dire, mais en grec ancien aussi. En hongrois, roumain, tchèque, suédois, arménien, arabe. Monsieur, vous me stupéfiez. Les pièces de mon héros seront jouées pendant 3 siècles sur toutes les scènes du monde et nul ne sait quand elles cesseront de l'être. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. Que me dites-vous là à propos des nourrissons illustres que vous avez tenus dans vos mains? Comprenez que cet enfant que vous mettez aujourd'hui au monde dans la maison des Pauquelin n'est autre que monsieur Molière. Ah, vous avez compris ce que je vous ai dit? Alors faites attention, je vous en prie. Dites. Il a crié. Il respire. Il vit.
Que voulez-vous que je vous lise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qu'il en est? Sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage. Pourquoi m'obliger là-dessus à l'érodite? Celle à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours d'avancement les choses, il faut faire, non pas dire, et les effets laisser mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je veux vous mettre d'accord. Et l'on verra quand je me marierai laquelle des deux à mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'il voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore, je suis tout à vous. Tous les visages sont l'air pour du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner, je vais vous retrouver. Dans un quart d'heure.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi. Quelle bizarrerie!
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher, et ne veux point en.
Ah, bah, vous brusque que chacun, je ne puis vous comprendre. Et quoique, ami, enfin, je suis tous les premiers.
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Vous après ce qu'en vous je viens de vous paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez. Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre, tout à l'instant.
Je ne crois pas pour moi que le cas soit pendable. Je vous supplierai d'avoir pas agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me prends pas pour cela, s'il vous plaît.
La plaisanterie est de mauvaise grâce.
Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?
Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande.
Non. Excusez-moi, du coup j'ai un trou là. C'est là qu'il faut qu'on va voir qu'on commence parce que.
Pour moi que le cas soit convenable, je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me prendre pas pour cela, s'il vous plaît.
De la plaisanterie et de mauvaise grâce.
Sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Quand un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même bonne loi, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre, serment pour serment.
Non, je ne puisse souffrir cette lâche méthode qui affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles. De civilités avec tout son combat et traite du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier facal il pourra faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée, la plus glorieuse, à des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout, en fait.
Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil l'usage de mort.
Non, vous dis-je. Vous rechassez, sans pitié, ce commerce honteux de sanglant d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Et quand toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours se montre que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
Il y a des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mi-gens tout ce que d'eux on pense. Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est.
Oui.
Quoi ? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire de la jolie. Que le blanc qu'elle a scandalise chacun.
Tout doute.
Alors, hélas, qu'il est trop important qu'il ait à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race.
Fort bien.
Vous vous moquez.
Je ne me moque point. Je n'ai épargné personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'en font rien qu'objets à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, injustice, intérêt, trahison, perfidie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
La question se pose. Où Molière avait-il appris à faire aussi bien passer le comique sur la scène? La réponse est manifestement la suivante. Était arrivé à Paris, parmi d'autres acteurs italiens, le célèbre et talentueux interprète de l'éternel masque italien de Scaramuccia ou Scaramouche, Tiberio Fiorelli. De noir vêtu de la tête aux pieds, à la seule exception d'une fraise gaufrée qu'il portait autour du cou, Scaramouche avait fasciné Paris par ses tours de virtuose et l'aisance éblouissante avec laquelle il faisait passer la rampe au texte comique et léger des farces italiennes. Le comédien débutant, Jean-Baptiste Poquelin, s'était présenté à Scaramouche et l'avait prié de lui donner des leçons d'arsenic. Et Scaramouche avait accepté. C'est certainement au contact de celui-ci que Molière reçut le baptême de la comédie. Et c'est encore le même qui développa en lui le goût de la farce. Ainsi, le chef de la troupe vagabonde jouait les rôles tragiques dans les tragédies des autres et les comiques dans ses farces. Et là se découvrit une particularité qui marqua notre héros jusqu'au fond de son être. Dans les rôles tragiques, il n'obtenait au mieux qu'un succès moyen, et au pire, le four complet. Il faut malheureusement préciser que ce dernier cas n'était pas rare. Limoges n'était hélas pas la seule ville où les pommes pleuvaient sur le pauvre tragédien qui évoluait sur la scène, le front saint de la couronne de quelques sublimes héros tragiques. Mais il suffisait que l'on donne une farce immédiatement après la tragédie et que Molière change de costume pour se transformer de César en Sganarelle, et à l'instant, l'affaire changeait du tout au tout. Le public se mettait à rire, le public applaudissait, cela se terminait en ovation, et les citadins apportaient leur argent aux représentations suivantes. Après le spectacle, tandis qu'il se démaquillait ou enlevait son masque, Molière disait en bégayant dans sa loge, « Mais qu'est-ce que c'est que ce public de rustres ? Qu'il soit trois fois maudit, je ne comprends pas. Est-ce que les pièces de Corneille seraient mauvaises ?»
Et parmi vos applaudissements, moins éloquents que vos silences, vous qui ne distinguez point entre l'artiste et l'interprète transparent. Vos éloges sonnent creux, des coquilles vides, je n'y trouve point de consistance. Je m'exilerai loin de vous, que se couche mes jours près du soleil levant. Non pas que je déteste tous les êtres humains, je n'en ai pas la vanité, mais je ne puis accorder mon cœur à chacun, m'en empêche ma lucidité. M'en empêche mon honnêteté, que cela soit entendu. Sous les toits de mon cœur ne s'abrite pas le premier vendu. Moi, je veux pouvoir regarder l'injuste dans les yeux et lui dire : injuste, tu as été. car passer sous silence une injustice que l'on peut dénoncer, c'est être un diable muet. Alors comprenez que je ne puisse mettre sur le même pied d'égalité et traiter avec la même dureté ou bonté l'oppresseur et l'opprimé, le gouvernant ou le gouverné, le gilet jaune et le banquier, le petit-fils de tirailleurs sacrifiés qui ne se sent toujours pas français et le descendant de colons qui craint subitement d'être grand remplacé. Ah, ce grand remplacement, devenu programme politique qui, je dois le rappeler, au risque d'instaurer un malaise, naquit ici même, sur un plateau télé. Alors comprenez qu'en homme libre, j'interroge cette société du tout sanitaire qui, je pense, me trouverait grâce aux yeux de l'auteur du malade imaginaire. Choquant, et alors, comment le poète congolais le dit ? Plaire à tout le monde, c'est un peu plaire à n'importe qui. Alors gardez-moi de vos applaudissements, moins parlant que vos silences. Vos éloges sonnent creux, des coquilles vides, je n'y trouve point de consistance. À la lumière de mon époque, Molière, Joly, j'espère comprendre ce qu'il vise lorsqu'il écrit. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse ? Vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse. Et vous fasse de vous un éloge éclatant, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant. Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située, qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse à des régales peu chères, dès qu'on voit qu'on le mêle avec tout l'univers, sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer à rien qu'estimer tout le monde.
Bravo. Chacun a été surpris quand on a donné la thématique. Les gens m'ont dit, mais pourquoi faire rire de la mort ? Est-ce qu'on peut ? Et chaque fois, je réponds Molière. Et donc, j'ai trouvé dans toute son œuvre pas mal de citations. Évidemment, dans Le médecin malgré lui, où on entend cette phrase, le malade prend la vie du médecin, le médecin prend la vie du malade. 2022, c'est les 400 ans de Molière, mais c'est aussi les 100 ans de Raymond Devos qui aurait sans doute adoré cette phrase-là de Molière et qui lui doit sans doute lui aussi quelque chose. Toujours dans Le médecin, Zganarelle, qui fait le médecin, dit « Les bévues ne sont point pour nous, c'est toujours la faute de celui qui meurt. » Et Molière donc détestait les médecins, à se demander si pendant le Covid, on l'aurait retrouvé tous les soirs à 20h pour huer les soignants, je ne sais pas. Et Zganarelle d'ajouter « Il y a parmi les morts une honnêteté, jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. » Et ça, c'est vrai, ça n'a pas changé, mais les morts peuvent se plaindre. Et dans mon spectacle, je parle des épitaphes. Il y a une épitaphe qui collait bien à ça, c'est celle-ci, c'est une anglaise qui a mis « I told you, I was sick » sur sa tombe. « Je vous l'avais bien dit que j'étais malade, donc certains morts se plaignent quand même. » Molière a pu se tromper là-dessus. Il en a parlé dans le Bourgeois, parce qu'il dit qu'il vaut mieux être marié que mort. Je lui laisse totalement cette analyse, je ne suis ni l'un ni l'autre, et c'est vrai que ça se discute si on est un peu avare. Un enterrement, ça coûte souvent moins cher qu'un divorce. Et dans l'avare, justement, Harpagon dit « C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré, n'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ?» Donc là encore, la mort est là, mourir par manque d'argent au XVIIe siècle, c'est l'avare. De nos jours, ça s'appelle l'hôpital public, mais ça reste quand même assez comparable. Oui, c'est engagé, hein. Je me suis dit « Je viens un grand échiquier, je ne peux pas décevoir Claire Chazal. »
Oh, c'est pas Kerry James, quand même.
Non, c'est pas Kerry James, j'ai des limites, je n'ai pas son physique, je ne peux pas me le permettre. Et bien sûr, dans sa dernière pièce, la mort, elle est partout, dans le malade imaginaire. Argan se soigne trop et son frère lui assène. Presque tous les hommes meurent de leur remède et pas de leur maladie. Et là, on se dit que peut-être les antivax ont un peu trop lu Molière. Et autre pic pour un médecin qui a trop de prétentions, Toinette, la servante, dit Argan, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures, qu'il fait de beaux discours. Et là, on reconnaît le professeur Raoui, tout de suite, hein, qui aurait été un formidable personnage de Molière, entre Tartuffe et le misanthrope. Voilà, et déjà, il avait la coiffure. Et bien sûr, cette dernière tirade que je vais laisser, si je peux vous demander, monsieur Weber, de nous la lire, car, oui, c'est Argan, le rôle que jouait Molière, et Molière se moque de lui-même.
Ah, mais Christian pourrait le faire aussi.
Ah, bah, mais, si vous voulez donner des rôles, c'est bien la première fois que je vois faire ça.
Ah, oui.
Mais... Alors, je dois lire ce qui est écrit en moi. Oui, c'est du Molière. À part avoir fait des coupes,